France avec ce push du Parisien vendredi à 20h41. Xavier Dupont de Ligonnès arrêté en Écosse.
Information que nous sommes donc en mesure de vous donner avec certitude. Cet homme, un homme arrêté ce soir à l'aéroport de Glasgow, c'est Xavier Dupont de Ligonnès.
À 23h largement consacré à cette information tombée en début de soirée, Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté.
Des tests ADN en cours.
Xavier Dupont de Ligonnès entendu donc en ce moment par la police.
Qui est l'homme arrêté hier à l'aéroport de Glasgow en Écosse?
L'homme arrêté hier, est-il bien Xavier Dupont de Ligonnès?
Selon nos informations, l'homme arrêté hier n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès.
Il ne s'agit pas de Xavier Dupont de Ligonnès. L'information nous a été communiquée.
Cet emballement démarre par le fait que la police ferait mieux de rester discrète tout de même, parce qu'elle a donné cette information immédiatement à un service de presse qui forcément l'a diffusée, et ça a été repris par tout le monde alors qu'on ne sait rien.
Et que s'est-il passé entre vendredi soir et samedi matin pour que presque toutes les rédactions françaises annoncent l'arrestation d'un homme qui n'était en fait pas le bon? Vendredi 11 octobre, vers 21h, après que le Parisien a donné une information exclusive, les chaînes d'infos basculent en édition spéciale et les journaux bouclent leur une avec ce titre à l'affirmatif: Xavier Dupont de Ligonnès, l'homme le plus recherché de France depuis 8 ans pour le meurtre de sa femme et de ses enfants à Nantes, vient d'être arrêté à l'aéroport de Glasgow en Écosse. L'affaire, avec un grand A, va dès lors occuper radio, télé, réseaux sociaux et journaux jusqu'à samedi midi, au moment où le résultat des tests ADN tombe. Il ne s'agit pas de Xavier Dupont de Ligonnès. Comment comprendre un tel emballement et quelles leçons tirer de ce fiasco médiatique? Eh bien, c'est la question que nous allons poser à nos deux invités ce matin. Arnaud Mercier, tout d'abord, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Institut français de presse de l'Université Paris 2. C'est ça. Et Olivier Lafont avec nous en duplex de France Bleu Provence à Aix-en-Provence. Bonjour Olivier Lafont.
Bonjour.
Vous êtes, vous, chef adjoint des informations générales du journal La Provence. Il faut rappeler que toute la presse régionale, ou presque, a titré sur l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès. Et tous ceux qui l'ont fait à l'affirmative, à l'indicatif, arrêté, point d'exclamation, même c'était un impératif, fin de cavale, etc., etc. Tous, sauf un, c'est La Provence, c'est vous. Puisqu'Olivier Lafont, à ce moment-là, vous étiez en charge de la une du journal vendredi soir. Et La Provence, c'est le seul journal à avoir traiter cette information au conditionnel et ajouter un point d'interrogation dans le titre. Pourquoi avoir agi avec autant de prudence alors que tous vos confrères et consoeurs ne l'ont pas fait, Olivier Lafont?
Alors, d'abord, précision, on ne s'est pas concerté. On ne se concerte pas pour décider du contenu de nos unes. Très sincèrement, au tout début de la soirée, lorsque ces informations sur l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès arrivent vraiment à l'affirmative, on est à peu près sur la même idée que nos confrères, c'est-à-dire on est aussi sur un titre court, hein, puisqu'à la une, il faut des titres courts, et nous sommes aussi sur un titre à l'affirmative, très honnêtement. Et puis, au fur et à mesure de la soirée, puisque nous avons, par rapport aux journaux nationaux notamment, la possibilité d'attendre un petit peu plus, notre bouclage est un petit peu plus tard.
Oui, c'est ça, vous bouclez vers 23h, alors que les nationaux bouclent vers 21h, justement.
Exactement, c'est ça. Donc, on a cette possibilité de se donner un petit peu plus de temps, donc puisque nos sites d'impression sont en région, sur place. Et donc, effectivement, au fur et à mesure de la soirée, on se rend compte, la lecture attentive des dépêches, à la façon dont les choses se sont passées, que malgré tout, ça paraît un petit peu curieux de titrer à l'affirmative sans condition, puisque on n'a pas d'image, on a des précautions oratoires, notamment de la part de l'AFP, hein, qui est notre source principale, sur un homme présenté par la police écossaise comme étant Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà, on a des petites choses comme ça au cœur des dépêches qui font que à 23h, moi j'appelle mon directeur de la rédaction et je lui dis: écoute, je titrerai pas l'affirmatif parce que je sais pas si on peut titrer comme ça, si on veut pas être faux demain.
Et vous avez retardé votre bouclage pour pouvoir changer le titre et le passer avec un conditionnel et un point d'interrogation?
Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a on a 10 éditions à La Provence sur 3 départements, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence. Donc évidemment, les éditions les plus lointaines partent les premières autour de 23h et là, on a décidé d'arrêter la production, donc de la suspendre le temps de faire les corrections, donc de reprendre la une, d'ajouter ce conditionnel, d'ajouter les doutes des enquêteurs. Et également changer l'intérieur pour avoir évidemment une information complète au conditionnel. C'est pour ça qu'effectivement, on a retardé d'une bonne demi-heure l'envoi des premières éditions. Alors la production n'est pas toujours très contente quand on fait ça. Mais bon voilà, ça me paraissait nécessaire vendredi soir. Ouais.
Et vous finissez votre une en disant « les enquêteurs restent prudents ». Et vous avez donc fait preuve de prudence, vous également, ce qui n'a donc pas été le cas de tous vos confrères et de toutes vos consoeurs dans la presse régionale. Vous n'avez pas peur quand même, Olivier Lafont, au réveil, de voir que vous étiez le seul journal en décalage? Vous n'avez pas peur de risquer de passer à côté du scoop, quoi, tout simplement?
C'est ce que je me suis dit lorsque mes 10 unes étaient envoyées avec ce point d'interrogation. Jamais très très bon en presse écrite, hein, de faire un titre avec un point d'interrogation. Journaliste, nous sommes là pour répondre à des questions et pas forcément toujours en poser. Donc effectivement, c'est pas très vendeur. J'ai pas très très bien dormi, je vous avoue, ce vendredi-là, enfin entre vendredi et samedi. Et je me suis dit, samedi matin, que bon, ça allait peut-être être étonnant par rapport aux certitudes hein, qu'on voyait défiler pendant ce temps sur les chaînes d'infos en continu qu'on avait au fond de la rédaction. Mais bon, voilà, avec le directeur de la rédaction, encore une fois, on est une petite équipe aux informations générales aussi, on s'est dit, bah tant pis, on garde ce conditionnel et jusqu'à notre dernière édition, donc qui est Marseille, hein, qui est celle qui est envoyée le plus tard, on est resté sur ce choix.
Arnaud, merci. Alors, comment expliquez-vous que les autres n'ont pas réagi de la même façon qu'Olivier Lafont ?
Et moi, je salue ce qu'a fait la Provence, parce que effectivement, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui convergent pour faire en sorte que on puisse expliquer cet emballement médiatique de l'ensemble des médias. D'abord, il y a le fait que l'AFP, qui est une source très importante et qui est pour la presse régionale et pour même pour les rédactions. Si l'AFP le dit, c'est que ça
doit
être vrai.
Mais même le Parisien, hein, qui est une source, j'entends bien. Ils disent tous que c'est une source fiable.
Mais précisément. Alors, d'abord, il y a l'AFP. Donc, si l'AFP le dit, ensuite, il y a une habitude, et qui est parfois une mauvaise habitude, qui consiste à chaque média à faire confiance à un autre média, en se disant, si eux, ils l'ont validé, ils ont dû suivre le process, donc ça doit être bon. Et d'une certaine façon, un confrère devient, à l'égal de l'AFP, quelque chose où on se dit, c'est fiable. Si eux l'ont lancé, c'est... Et voilà. Donc, on peut leur faire confiance. Des dérapages comme ça, on en a eu plein. Europe 1 qui avait annoncé une semaine trop tôt la disparition de Pascal Sevran, ou des choses comme ça. L'AFP, qui s'est énormément trompé, ça a été une grosse affaire, annonçant la mort du PDG de TF1 à tort. Enfin bon. Donc, des histoires, on peut en raconter plein comme ça. Ou si on commence à faire confiance à l'autre... Bon. D'ailleurs, suite à cette affaire de PDG TF1, Radio France, notamment France Info, a décidé de mettre en place une cellule de vérification par eux-mêmes. Donc, en se disant, ce n'est pas parce qu'un média le dit, parce qu'il y a une certaine forme, je dirais, de paresse professionnelle, hein, chez les journalistes qui considèrent dire, si un confrère le dit, eh ben, on va reprendre l'info en disant, d'après le Parisien, d'après machin, et hop, comme ça, on estime que on s'est dédouané.
On préfère écouter les autres et suivre les autres plutôt que d'aller chercher à la source soi-même.
On s'est dédouané d'eux. Bon. Ensuite, il y a un autre problème qui est spécifique au fait que c'est une affaire de faits divers. Là, on a un problème qui est le rapport et l'extrême dépendance aux sources policières. Et on voit bien ici que il y a deux problèmes qui se sont complètement emboîtés. Le premier problème, c'est le fait que il y a des habitudes de collaboration entre la police et les journalistes pour tout ce qui est fait divers et police-justice, comme on dit, avec d'ailleurs des situations parfois assez ambiguës où finalement vous avez des journalistes qui finissent par être plus ou moins les porte-parole officieux d'enquêteurs, etc. Enfin, ça devient un peu trouble, je trouve. Et là, en l'occurrence, personne n'imagine, mais absolument personne, que vendredi, tout d'un coup, il y a un journaliste qui téléphone à la police, dit « Tiens, au fait, les gars, ça fait plus de 8 ans qu'il est en cavale, vous auriez pas des infos, vous voyez ce que je veux dire ?» Donc, évidemment que ce sont des policiers qui se sont empressés de téléphoner à des journalistes, parce que des relations professionnelles, voire amicales, voire machin. Mais, en tout cas, il y a vraiment cette idée que il y a une espèce de relation un peu fusionnel, j'allais dire, entre la source policière et les journalistes. Et là, il y a eu une deuxième erreur qui s'est intriquée là-dedans, qui est très étonnante. C'est la manière dont les journalistes ont fini par s'auto-intoxiquer et perdre toute lucidité. Regardez les systèmes de justification des médias après l'erreur. Mais pourtant, nous avions demandé à plusieurs policiers, etc. Mais là, c'est de la folie, parce que c'était la même. Je veux dire, c'est toute la police qui s'est intoxiquée par rapport à ce que disait la police écossaise. Mais évidemment que si vous allez voir trois policiers différents, ils vont vous dire exactement la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, croire que parce qu'on avait été voir trois policiers différents, on recoupait des sources, et donc, comme ça convergeait, ça voulait dire que c'était vraiment vrai, ben là, c'est une erreur totale de raisonnement.
Donc, paresse professionnelle, dépendance à l'égard des sources policières. Olivier Lafond, une réaction à ce que vient de dire Arnaud Mercier?
Alors, de notre côté, donc à la Provence, on est un petit peu loin de la source, pour le coup. Quand des choses se passent dans notre région, ou près de nous, ou même sur des sources nationales, bien sûr, on a les moyens de vérifier, on a les moyens de tenter d'avoir l'information par ailleurs. Là, pour le coup, c'est la police écossaise, en tout cas la police nationale aussi, bien sûr, mais à cette heure-là, on va dire, on va difficilement pouvoir vérifier l'information. Donc, oui, je pense que là, la démarche, et c'est vrai, c'est étonnant, même si, je le disais en préparant l'émission, on n'a vraiment aucune leçon à donner à qui que ce soit. C'est-à-dire que nous nous sommes déjà trompés par le passé. Je pense vraiment qu'on se trompera encore, évidemment. Mais le pas de côté, on va dire, qu'il est nécessaire de faire dans ce genre d'affaires, surtout quand la source est très éloignée, je pense que parfois, on a tendance évidemment à l'oublier parce qu'il y a cette course à l'information, parce qu'il y a la pression de ne pas manquer quelque chose. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, sur le fait, voilà, est-ce que ce point d'interrogation n'allait pas être un petit peu trop timoré le lendemain matin. Voilà, il y a cette course-là et on est un petit peu victime de ça. Je pense qu'il faut être capable de faire ce pas de côté. Je suis d'accord, oui.
Bon, vous parlez juste de l'heure, Olivier Lafond. Il faut préciser que assez tard dans la nuit de vendredi, des policiers se sont rendus dans les Yvelines pour perquisitionner un pavillon qui s'avérait être en fait le pavillon de Guy Jouaot. Et le lendemain matin, très tôt samedi matin, l'AFP était présente dans la nuit et l'AFP est retournée dans les Yvelines. C'est là qu'on a pu entendre des voisins, des amis du propriétaire du pavillon perquisitionné dire « Mais c'est pas du tout Xavier Dupont-Ligonnès. Nous, on le connaît, notre voisin,
impossible,
etc. »
Ça fait 30 ans qu'il est là. Donc
en fait, c'est intéressant ce que dit Olivier Lafond, Arnaud Mercier, parce qu'il pointe quand même du doigt la pression et la course à l'information. Dans cette affaire, il y a quand même eu avant tout peut-être une urgence, avant même la paraison, une urgence de la part de la plupart des journalistes. C'est le système médiatique qui va trop vite. Quoi.
Mais bien sûr, mais les deux sont compatibles, puisque malheureusement, c'est justement l'urgence qui aboutit à ne pas respecter les règles habituelles du recoupement de l'information, etc. Là, par exemple, de façon très typique, une des règles de base de déontologie journaliste, c'est de recouper ses sources. Hein, c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est le B.A.B.A. Recouper ses sources, ça veut dire notamment identifier au moins deux sources différentes qui, idéalement, sont identifiables comme ayant des intérêts divergents ou des points de vue divergents. Et on se dit, si avec des intérêts divergents, avec des regards différents, ils vous confirment la même chose, là on se dit c'est sûr. Là en l'occurrence, il y avait deux sources. Il y avait la police française et la police écossaise. Mais aucun média français n'a été cherché et ne pouvait peut-être pas le faire parce qu'ils n'avaient pas les réseaux habituels, etc. Et surtout pas dans ce temps, et surtout pas la nuit, etc. Donc la vraie question, effectivement, c'est à partir du moment où il y a un tempo de l'urgence de l'information qui est lié à ce que les uns et les autres vivent comme une pression qui est la pression non seulement de la concurrence avec les autres médias, mais aussi de la concurrence avec les réseaux sociaux, etc. En se disant, de toute façon, si ça fuite maintenant sur Twitter, etc., c'est ballot parce qu'on passera après, etc. Ça fait que, effectivement, on vit ça sur un mode où on se dit, allez, dans un arbitrage entre est-ce que je respecte totalement mes règles déontologiques et le temps que ça prend pour fabriquer l'information et le fait de passer à l'antenne ou de mettre en ligne, etc., bah, dans un certain nombre de cas, le déséquilibre est défavorable. Et j'ajoute un dernier point. Dans cet emballement, les chaînes d'information continue ont aussi une énorme responsabilité. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Monsieur Lafond. Les chaînes d'information continue, elles ont pour rôle de pouvoir donner en continu avec tous les dangers que ça peut procurer. Ça, je comprends bien, c'est un exercice un peu d'équilibre. Mais il y a un degré supplémentaire qui a été franchi immédiatement et qui, là, est une cruelle erreur. C'est le fait d'être passé en mode édition spéciale. Parce que le dispositif même de l'édition spéciale est déjà une attestation de... Alors que là, ils sont passés en édition spéciale alors même qu'ils n'avaient pas encore absolument tous les éléments factuels à disposition. Et J'ajoute que dans toutes les rédactions de France, les chaînes d'information sont souvent allumées quelque part. Donc évidemment qu'elles deviennent aussi un facteur d'influence des rédactions.
Olivier Lafond, ce que dit à l'instant Arnaud Mercier à propos des éditions spéciales peut se retrouver en effet à la une de quasi toute la presse, disons, le lendemain matin. Est-ce que vous vous êtes demandé s'il fallait d'ailleurs faire la une ? Parce qu'on peut aller encore plus loin qu'Arnaud Mercier et se dire, est-ce que vraiment cette information méritait des éditions spéciales ? Non seulement sur le fait qu'il aurait dû être conditionnel, mais cette information sur ce fait divers, c'est un fait divers. Donc, on touche là aussi à la fascination pour cette histoire.
C'est sûr.
Oui, impressionnante peut-être, mais qui reste un fait divers. Et donc, à la fascination française aussi pour le fait divers. Ça ne serait pas arrivé si tous les journaux avaient traité, avaient mis le front syrien en une, par exemple. Olivier Lafond.
Non, mais vous avez prononcé le mot, je pense, tout à fait adéquat. Fascination, c'est le mot. Et surtout sur cette affaire Xavier Dupont-Ligonnès, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et dont on a parlé de façon très régulière, y compris chez nous. Je pense qu'il y a aussi, et c'est pour ça que c'est un cas d'école, dans ce sujet et à l'heure où il est tombé, quelque chose qui tenait du vrai scoop, du vrai sujet de faits divers qui fascine, qui subjugue. Et je pense que probablement les médias nationaux et locaux ont été aussi emportés par cette fascination, très probablement, bien sûr.
Et qui fait vendre sûrement Olivier Lafond. Vous diriez que c'est une erreur ou une fake news, l'un comme l'autre ? Olivier Lafond.
Alors moi, j'étais assez d'accord avec ce qu'a dit le directeur de la rédaction adjointe de Libération, que j'ai entendu donc à la suite de cette erreur, enfin je sais pas comment on peut la qualifier, qui disait non, ce n'est pas une fake news, je suis assez d'accord avec lui, parce que la fake news, c'est une fausse information, mais qu'on donne de façon volontaire. Et là, évidemment, il n'y a pas, de la part des médias, l'intention de donner une fausse information. On est plutôt sur une erreur de tempo, un empressement excessif, mais je ne pense pas qu'on puisse parler de fake news, non, je ne pense pas.
Un ratage, mais pas une fake news. Arnaud Mercier.
Oui, je suis absolument sûr qu'on ne peut pas parler de fake news, en l'occurrence, parce que effectivement, dans l'idée de fake news, il y a l'idée de fabrication artificielle d'une information dans le but de tromper. Ce qui n'est absolument pas le cas. Là, ce sont les journalistes qui se sont trompés, ils se sont intoxiqués eux-mêmes, intoxiqués dans la relation avec leurs sources policières, et il n'y a que voir à quel point une partie des rédactions était contrite le lendemain de devoir expliquer
des luges,
tout
des mea culpa, méprise, voilà, était le mot principal en une.
Même si je trouvais qu'un certain nombre de systèmes d'explications sont pathétiques, parce que déplacer toute la responsabilité sur la police écossaise me paraît un peu court. Mais bref, donc évidemment que c'est pas une fake news. Mais par contre, ce qui est vrai, et c'est cruel, c'est parce que moi je suis en train de finir un livre sur les fake news, justement. Le vrai problème, j'ai été regardé sur les réseaux sociaux. Le nombre de gens qui détestent les journalistes, qui parlent d'eux en disant les merdias, la prostituée, les journalopes, enfin toutes ces terminologies à vomir, qui expriment leur haine en fait de l'information et des journalistes, ben, ces gens se sont emparés de ça, ils se sont gobergés avec les unes, etc., en disant, vous voyez, les médias fabriquent des fake news, à la manière d'un Donald Trump qui parle, vous savez, que le New York Times, etc., il appelle ça les fake news médias, et même aujourd'hui, dans certains de ses tweets, quand il dit fake news, c'est le terme maintenant pour désigner le New York Times, CNN, etc.
Donc, mais du coup, vous pensez que dans ce contexte de défiance, c'est oui. Grave, c'est pas anecdotique ce qui s'est passé.
C'est pas anecdotique, malheureusement, en effet, ça donne du grain à moudre à ceux qui détestent déjà les journalistes. Sur le mode, vous voyez, c'est bien la preuve qu'ils fabriquent des fake news. Non, ils ne fabriquent pas des fake news. Ils ont fait une erreur parce que malheureusement, à cause de la fascination pour les faits, à cause des relations un peu trop incestuelles, j'allais dire, entre des sources policières et journalistes, à cause de l'urgence du Madame Pau, eh bien, ils ont été trop vite, ils n'ont pas respecté leurs propres règles.
Mais les excuses étaient bienvenues et elles ont été malgré tout nombreuses. On peut retenir un titre de une qui était bienvenu également et qui était bien choisi. Et c'est le titre de La Provence, on ne refait pas. Beaucoup de bruit pour rien. Voilà ce que vous avez titré, Olivier Lafond, vous et votre équipe, bien entendu, dans La Provence de dimanche. Merci Arnaud Mercier, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Institut français de presse. Et merci Olivier Lafond, chef adjoint des informations générales au journal La Provence.